RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, vous avez bien entendu, mêliez-vous de ce qui vous regarde, hein, attention. Mais vous pouvez m'écouter quand même. Mais vous ne faites rien d'autre, hein, vous m'écoutez seulement. Hein, parce que ça peut pas, vous ne pouvez pas m'écouter et puis faire autre chose, par exemple, la vaisselle, ou écrire, hein, ou vous torcher, vous mouchez par contre, excusez-moi, vous mouchez le nez par exemple. Hein. Vous savez quand on se mouche le nez? Des fois ça bouche les oreilles. Et à ce moment-là, vous ne m'entendez pas. Donc il ne faut pas vous moucher le nez pendant mon émission. Voilà. Bon, figurez-vous que pour la première fois depuis que je fais de la radio, j'ai pris un poème de Baudelaire et je l'ai récité plusieurs fois pour lui donner de l'intonation. Parce que je l'ai entendu par un autre poète ou un récitant. Hein, et je me suis dit, mais c'est incroyable comme c'est beau la façon dont il le récite. Et je vais essayer de le faire. Alors, vous étonnez pas si c'est plus ma voix. Hein. Enfin, bon, j'ai triché, c'est le gars qui est à côté de moi qui va le réciter. Non, je suis tout seul. On n'est que deux. Un, mon meilleur technicien et mon meilleur poète. Ma meilleure façon d'être, voilà. Hein. Alors, ça s'appelle « La fontaine de sang » de Charles Baudelaire. Il me semble parfois que mon sang coule à flot, ainsi qu'une fontaine au rythme sanglot. Je l'entends bien qui coule avec un long murmure, mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. Alors je vous ai fait une petite respiration là, parce que c'est exactement ce qu'il faisait dans la phrase, vous voyez? Et je le copie, bon, c'est pas grave, il va pas m'engueuler, parce que ça se trouve, il écoute pas RLP, lui, hein, celui qui a... Allez, je continue. À travers la cité, comme dans un champ clos, il s'en va, transformant les pavés en îlots, désaltérant la soif de chaque créature, et partout, colorant en rouge la nature. J'ai demandé souvent à des vins captieux, alors c'est pas capricieux, c'est capiteux. Il dit captieux, voilà, d'endormir pour un jour la terreur qui me mine. Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine. J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux, mais l'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles, fait pour donner à boire à ces cruelles filles. Voilà. Alors vous avez vu, c'est plus Maurice Méliès là, hein. C'est presque Baudelaire là. Hein. Vous voyez comme qu'on peut changer de peau au dernier moment là. Hein. D'ailleurs maintenant vous m'appellerez Charles, hein, comme Baudelaire. Ah, mais je suis content de moi, là, je peux vous dire que je suis peut-être le seul à être content de moi, si ça se trouve. Et s'il y a des auditeurs, des autres qui sont d'accord avec moi, qui sont contents de moi, qui téléphonent pour le dire, hein, bon, hein, ou un petit mail, hein, un petit mail, c'est encore mieux un petit mail, parce que vous faites quand vous voulez. Téléphoner, mais la nuit, vous ne pouvez pas, s'il n'y a personne. C'est pas comme certaines radios qui tournent 24 heures sur 24. Si, nous, on tourne 24 heures sur 24. Mais on vous balance de la musique que vous plaisez et que vous aimez la nuit parce que vous ne dormez pas. Vous avez des insomnies. Alors, pour calmer vos insomnies, on vous met de la musique douce. Et par contre, alors ceux qui sont un peu énervés, on leur met du rock la nuit. Comme ça, ils restent debout. Ils peuvent pas s'endormir comme ça. Hein? Ben déjà, les travailleurs de nuit. Ben oui, ça existe. Enfin, il n'y a pas que des travailleurs de nuit, il y a des travailleuses de nuit. Alors, tiens, où est mon Prévert? Alors, Prévert, ah oui, alors là, bon, alors, j'ai rassemblé tous mes bouquins de Prévert. Je les ai tous. Un rêve retrouvé. Bon, je ne vais pas prendre la même intonation que pour Baudelaire, ne vous inquiétez pas. Je rêvais que j'étais bouteille vide, flottant au fil de l'eau et respirant par le goulot. Bah ouais, une bouteille vide, qui n'a pas de bouchon, on peut respirer que par le goulot. Hein. Bah ouais. Une barque sur 20 avec deux joyeux canotiers. L'un d'eux, facétieux, tapait sur la bouteille pour qu'elle s'emplisse d'eau, s'enfonce et disparaisse. J'ai tout fait. Alors attention, j'ai tout fait. Non, il n'a pas tout fait. Hein. Ne confondez pas j'ai tout fait, du verbe étouffer, et du verbe ne pas avoir fait. Hein. Bon. Me réveillant, Je me levais, cherchais du regard une bouteille vide, la trouvais et la regardais attentivement. Essai d'explication. La veille de ce rêve est un beau matin, je nageais dans la Marne, au Péreux, et les pieds pris dans des herbes, j'avais bu la tasse, je suffoquais. Comme j'allais assez péniblement regagner l'autre rive, de joyeux bamboucheurs, dans un canot, sans doute les mêmes, mais perçus, mais l'un d'eux, histoire de rire, m'a sonné un coup, un brutal coup. Il m'a sonné un innocent, un brutal coup de rame sur la tête. Je suffoquais, bah oui. Et c'est un petit peu noyé qu'on me transporta à Bonport. Il a des trucs marrants. Alors, par exemple, frontière. Hein. Votre nom ? Nancy. D'où venez-vous ? D'où venez-vous ? Caroline. Et où allez-vous ? Florence. Allez, passez. Votre nom ? On m'appelle Rose de Picardie, Blanche de Castille, Violette de Parme et Bleue de Méthylène. Vous êtes mariée ? Oui. Avec qui ? Avec Jaune d'œuf. Passez. Il n'y a que lui pour écrire des conneries pareilles. Non, ce n'est pas des conneries. C'est beau. Alors, je vais vous en dire encore, hein, parce que j'aime bien ça, c'est attendu. Parce qu'il a fait aussi des, comment on appelle ça, des dialogues, hein, entre, par exemple, l'aveugle et le monsieur, le maître, le boiteux, vous voyez. Alors, l'employé. Alors, je vais vous lire, tiens, miracle. L'Express, vous croyez au miracle ? S-E-J, d'Aliénou. Absolument, pour moi... Le surnaturel existe dans le quotidien. Quand je prends le métro, je me surprends à penser que tous ces gens qui m'entourent sont appelés à contempler un jour la Sainte Trinité. Ce sont des expériences extraordinaires et je sais que cette vision est vraie, même si personne autour de moi ne s'en doute. Oh, extrait avec le cardinal Danielou, voilà. Hein. Il est très tard et très tôt à la fois. Le métro roulait vers la porte de la chapelle. Il n'y avait personne sauf deux, et la première personne parlait à la seconde personne d'un troisième personnage qui était à l'entendre un oiseau. Elle descendit à la Trinité, et sur le quai, sans la saluer, croisèrent un autre homme, une autre personne qui avait une queue et des cornes, et devait descendre de la fourche. Bon, voilà, itinéraire fatras. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour le moment, parce que. J'ai trois livres de lui à raison de presque 300 pages. Hein, ça fait 900 pages à vous réciter. Vous rendez compte ? Non, on ne le fera pas, c'est pas possible. C'est pas possible de faire autant. Alors, pour la peine, tiens, je vais vous faire un petit spécial. Bobby Lapointe, voilà. La fille du pêcheur.
Moi, les filles de Paris déguisées en glamour, tartines de beauté, margarine d'amour, je n'y tiens pas. Si ce n'était pour soigner mon petit libido, on n'en verrait jamais près de moi au dodo. Mais voilà, j'ai besoin d'être à Paris puisque je suis chômeur. À Paris, c'est payé beaucoup plus cher de l'heure. Sinon, va. Moi, les filles de Paris déguisées en glamour, tartines de beauté, margarine d'amour, je n'y tiens pas. Où es-tu, fille du pêcheur ? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, tu es la reine. Je t'ai connu, souviens-toi, tu n'avais pas 15 ans, je venais à la mer avec mes parents pour l'été. Comme je t'ai trouvé jolie, j'ai voulu être aimable, et toi, petite sauvage, tu m'as jeté du sable. Méchanceté. Mais j'admirais ton papa qui avait un bateau, tu admirais mon papa qui avait une auto. Et bientôt, nous étions copains-copains comme chemise et cul. Et quand je suis parti, toi aussi tu as eu du chagrin. Où es-tu, fille du pêcheur ? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, tu es la reine. Et depuis tous les automnes et même tous les hivers, quand une chose ou l'autre me rappelle la mer, serre les poings. Non, je n'étais pas bagarreur, je suis pas devenu, mais je veux garder le chaud de tes épaules nues dans mes mains. Oui, je veux garder le chaud de ta peau mordorée, du brillant de tes yeux et des reflets moirés de tes cheveux. tes cheveux dégoulinants de perles d'eau salée, perles que sur ta peau d'un baiser je volais. Malicieux, où es-tu, fille du pêcheur? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, tu es la reine. Tu avais promis, souviens-toi, que l'on se marierait, mes études finies lorsque je serai médecin. Médecin, c'est long, bien long, et pour me consoler, prenant un air distrait, tu me laissais cajoler les deux tiens. Mais quand je suis revenu à ce dernier été, prise d'un voyou, tu avais déjà quitté le midi. Ma foi, j'aime trop la mer pour te chercher ailleurs. Heureusement pour moi, il y a ta petite sœur qui a grandi. Elle est fille de pêcheurs. Tiens, je vais l'appeler sirène. Elle sera reine de mon cœur, elle est la reine.
Elle est la reine. Ouais. Alors, je sors mon dernier tome de balade poétique au travers d'un pied vert, c'est-à-dire, soi-disant, le deuxième tome, et je vais vous lire un poème qui a été écrit en 2021 à 12h21, comme a fait l'Esprit, il n'y a que des 21 presque. L'enfer du décor. C'est fait. J'ai pris une sage décision. Je n'irai pas au paradis. Il paraît que c'est d'un ennui mortel. L'enfer, le voilà, c'est le vrai paradis pour des fins marrons. Voilà, l'enfer. Et chauffé toute l'année, en plus. D'ailleurs, il se dit que les fous morts préfèrent l'enfer du décor si accueillant. Il paraît aussi qu'ils ont mis une diablesse avec des bas grésilles à la place du vieux démon, de minuit, moins le quart de 7h du matin, parce qu'en réalité, un mort, ça ne dort pas beaucoup, et même sa nature, jamais, et selon sa nature, jamais. Et puis, il y a en enfer le jeu à celui qui trépassera avant les autres et qui gagnera un an de plus à vivre dans ce lieu paradisiaque. Et comme moi, je suis tricheur, j'aurai la chance de gagner plusieurs années à draguer la belle diabiesse qui, à cause de sa chaleur ambiante, est plus souvent nue que vêtue d'une robe de pudeur avec cadenas en fer forgé. Ouais, parce qu'ils ont mis un cadenas en fer forgé, parce que sinon, vous voyez, tous les mecs qui sont en enfer, c'est qu'ils sont chauds, les mecs, hein. Ah ! Qu'elle resta à sa place avec le grand plongeon vers l'inconnu. D'autant plus que c'est vachement excitant, car le calendrier romain n'indique même plus l'heure d'y toucher. Et si, par hasard de la vie, je redevenais vivant en forme de macro-baveur, je fricoterais avec une sirène ayant du poil au sein et des plumes au cul, afin de me croire lapin en route à ma gage. Sur ce, bonnes vacances parmi les morts vivants. Oh, c'est un peu dur, hein, comme ce que j'ai écrit là, hein. Oh, j'aurais pas dû. Je vais me faire censurer à tous les coups, là, hein. Oh, je vais me faire censurer, hein. Oh, quand même. Bon, il va falloir que j'enlève du livre, ça. Je vais arracher les pages, hein. Ah non, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible, hein, Maurice, hein. Bon, alors, bon, donc je laisse tomber ce livre, je vais en prendre un autre, hein. Bon, faut pas exagérer quand même, Maurice, hein. Ne recommence pas, Maurice, hein, surtout. Sinon, on va te virer. Alors, est-ce que vous connaissez Raoul Ponchon? Alors, figurez-vous que c'était un hydropathe de 1879. Donc, un sociétaire du club des hydropathes d'Émile Goudot. Hein, voilà. Il paraît qu'ils étaient 150 membres. Alors que nous, là, à Périgueux, on est à peine 20 membres. Hein. Ouais, mais enfin, bon, Paris, c'est quand même plus grand que Périgueux. Hein. Bon, c'est un peu normal, quand même, hein. Si ça se trouve, par rapport à Périgueux et Paris, on est plus nombreux qu'eux, hein ? Ben oui. Et alors, il a écrit « Escargot ». Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, puisqu'il a mis un S, figurez-vous. La fraude, nerf du commerce, à notre époque, s'exerce sur des escargots et tout. Ainsi, des gens sans vergogne, vous déclarant de Bourgogne, ceux qui cueillent n'importe où. Tel escargotier cupide, dans une coquille vide, et Bourguignon vous vend un escargot fantaisiste, c'est le jet du fabuliste paré de plumes de paon. Mais ceci n'est rien encore. Tel autre, nul ne l'ignore, sans surmener son cerveau, autrement vaille qui vaille, ces escargots il les taille dans un simple mou de veau. Ouais, parce qu'il y en a qui font croire que le mou de veau, quand il est cuit, et qu'ils mettent ça dans une coquille d'escargot, que c'est de l'escargot. Ouais, ouais. Ils vous mettent de la persillade, un peu de beurre, et puis hop. Et puis ils vous vendent ça pour des escargots. Ouais. Remarquez, c'est pas plus mal, parce que les escargots, c'est quand même des êtres vivants qu'il faut laisser dans la nature. Hein. Regardez dans les jardins. Ils vous bouffent vos salades. Ils vous bouffent les fans de carottes. Ils vous bouffent tout. Comme ça, vous n'avez pas besoin de les éplucher après. Bon, allez. C'est ce qui fait qu'en Bourgogne, les bourguignons sont en rogne. Bah oui. Mène au grand branle-bas des escargots de nos vignes, disent-ils. Sont les seuls dignes, les autres n'existent pas. Alors, les escargots de vignes, oui, ça existe aussi. Alors, eux, ils bouffent le raisin. Bon. Ce qui fait qu'ils le goûtent avant vous. Et si c'est pas bon, ils le recrachent. Et comme ça, vous avez compris qu'il ne faut pas les manger. Hein ? Bon. Ils exagèrent sans doute, les escargots, somme toute. Viendraient-ils de Chicago, des Balkans ou de la Flandre ? Peuvent même prétendre à des titres d'escargots. À peine francs, j'irai jusqu'à dire que ces mollusques rappellent ce caoutchouc, soit cet élastique gomme mâché au collège comme si c'était du cachou. Voilà. Mais c'est pas fini. Mais la savante industrie des vatels de ma patrie est admirable à ce point qu'il vous ferait, ma parole, bouillir dans une casserole, manger votre propre poing. Ainsi, quand ils accommodent ces rudes gastéropodes, selon les lois d'un farci, d'essence supérieure, en les maniant de beurre, force épices, ail et persil. Je vous l'avais dit, ça. Hein bon. Ma foi, leur chair élastique devient assez sympathique. Tout dépend de la façon. Ici, plus qu'ailleurs, j'estime que c'est la sauce qui prime et fait passer le poisson. Voilà. Hein. Bon, alors après, il parle du gigot. Mais bon, c'est un autre poème, ça. Donc. Et il l'adresse à Jean Richepin, qui était aussi un hydropathe, mais lui qui avait plutôt une façon d'écrire un petit peu à la dure, c'est-à-dire, comment je peux vous dire, un peu social, voilà, hein, un peu social. Hein. On aurait pu le prendre pour, je sais pas moi, Jean Jaurès, par exemple. Jean Jaurès et Jean Richepin font la paire. Hein. Une paire quoi ? Une paire de... Non, je vais pas le dire, non. Non, je le dirai pas, non, non. Je le garde pour moi. Bon, hein, voilà. Alors, on va reprendre le premier Prévert, tiens, histoire de... Il ne fallait pas l'écrire. Et je l'ai quand même écrit. Ce fut écrit le 12 mai 2018. Vous vous rendez compte, hein ? Quand je vois ce Dieu mis dans un calice d'argent, comptant puis dans un placard qu'ils appellent tabernacle, je me dis que cette religion est atroce de traiter son Dieu de cette façon. Et le dimanche, comme par miracle, on le sort de sa boîte après une semaine de cachot pour le faire voir aux autres et les infidèles. Le curé, planté debout derrière la table à prière, pour faire voir cette petite rondelle, en je ne sais quoi, prétendu être Jésus, ressuscité, et qui crie à force d'être manipulé tous les dimanches. Soudain, voilà que le curé, le mord à pleines dents, et lui arrache le haut du dos. Et la foule se signe devant cette mutilation en faisant le signe de croire. L'inévitable arriva, quand ce petit curé monstrueux fit croire à la foule qui va se faire une transfusion sanguine avec le sang de ce monsieur si généreux. En fait, il offre chaque dimanche là, sa dose de sang à ce vieux curé anémié. Il reste encore des vampires dans les églises. Mais que fait donc la police ? Merde alors ! En plus, pour casser cette croyance, le curé dit aux enfants, poussés par leurs parents bien sûr, de venir à la messe pour qu'ainsi ils aillent au paradis et qu'ils pourront cultiver un carré de jardin. Que nenni ! Il n'y a pas un gramme de terre et encore moins de vers de terre. Et ne parlons pas des bonbons, car le distributeur est sur terre et il porte un canotier pour se faire reconnaître par les infidèles et les autres croyants. Voilà. Bon, c'était Alain Bernard le dernier. Hein. Bon, mais il est parti au paradis lui aussi. Hein. Ils ne l'ont pas mis en enfer. Hein. Parce qu'il paraît que là-bas, les canotiers, il ne faut pas les brûler. Donc il ne pouvait pas le mettre en enfer. Hein. Bon. Donc il a son canotier là-haut, parce que ça chauffe là-haut, hein, parce qu'on est sur les nuages. Donc le soleil, il est en plein pendant 365 jours sur 365. Alors si vous n'avez pas un canotier ou un chapeau, vous brûlez la couenne. Hein. Faites attention quand même. Hein. Bon. Donc allez voir le chapelier là pour acheter un canotier. Hein. Et vous serez beaucoup mieux quand vous serez là au paradis. Alors, si vous allez en enfer, ce n'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Là, vous restez tranquillement à vous chauffer les fesses le long d'un feu un feu, mais pas un feu d'artifice. Hein. Bon. Alors, allez, tiens, on va prendre un petit Victor Hugo, ça ferait pas de mal. Hein. Un petit Victor Hugo toutes les semaines, hein, qu'est-ce que vous pensez? C'est un peu comme si vous prenez, par exemple, une purge, vous voyez, toutes les semaines. Hein. Bon, alors, bien sûr, Victor Hugo, c'est pas une purge. Hein. Au contraire, moi, je trouve que ça fait du bien, c'est plutôt un dessert. C'est comme un dessert. Alors, tiens, ben, ça tombe bien. Le poète, muse, contemple ta victime. Ah, ceux qui ravissent ses chants sont loin de croire à l'amertume qui ronge son cœur. Alors ça, c'est Lamartine et Théodore Maure. Hein. Maintenant, ça va être du Victor Hugo. Qu'il passe en paix au sein d'un monde qu'il ignore, l'auguste infortuné que son âme dévore, respectez ses nobles malheurs, fuyez au plaisir vain son existence austère, sa palme qui grandit jalouse et solitaire, ne peut croître parmi vos fleurs. Il souffre assez de maux pour y joindre vos joies. Chaque pas qu'il enfonce en de sublimes voies par une douleur est compté. Il pleure sa jeunesse avant l'âge envolé. Sa vie, humble roseau qui se courbe accablé du poids de l'immortalité. Il pleure. Ô belle enfance et ta grâce et tes charmes et ton rire innocent et tes naïves larmes, ton bonheur doux et turbulent et loin des vastes crucieux l'aile que tu reposes. Bon, il va être un petit peu long, je vous lis que le premier couplet. Hein. Le premier. Et dans des yeux brillants, ta couronne de roses qui flétirait son front brûlant. Il accuse et son siècle et ses chants et sa lyre. Il la coupe et la coupe enivrante où, trompant son délire, la gloire verse tant de fiel et ses voeux poursuivant de promesses funestes et son cœur et sa muse et tous ses doux célestes, hélas, ils ne sont pas au ciel. Voilà. Alors après, il y en a deux, il y en a trois, il y en a un quatre. Bon, demain matin, on est encore là, hein, je vous préviens. Hein. Ah, vous voulez qu'on soit encore là demain matin? Ah oui, mais il faut que je demande à la chef. Hein. Elle ne voudra pas, là, que je reste là jusqu'à demain matin. C'est normal. Bon. Alors tiens, allez, encore un petit la pointe. Toto le tigre.
Toto le tigre aimé, Conchita la danseuse. Toto le tigre aimé, Conchita malheureuse. Toto le tigre aimé, Conchita amoureuse. Du pourdompteur Zorro à la langue mantaise. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton montant. Le beau Zorro disait, Conchita que t'es bête. Le beau Zorro disait, l'amour n'est qu'une fête. Ne durant qu'une nuit qu'à l'aurore on arrête. Le beau Zorro disait vraiment tu perds la tête. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton montant. Le tigre entendait tout, il songeait in petto. Attends chacun son tour, attends mon beau Zorro. Attends le dernier numéro. Quand tu mettras la tête dans la gueule à Toto. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton montant. Sur la piste Zorro, le cœur toujours en quête. Pendant qu'il travaillait une nouvelle conquête, se pencha jusqu'au cou dans la gueule de la bête, qui d'un grand coup de croc lui fit perdre la tête. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton montant. Toto le tigre adore Conchita la danseuse, qui n'aime plus Zorro à la langue menteuse. Toto le tigre attend qu'elle soit amoureuse de notre beau dompteur à tête savoureuse. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Oh les Conchita, vas-y n'aie pas peur, mais y a un tigre dans ton moteur. Olé.
Olé. Non, c'est café au lait. Hein. Alors, mon fameux livre, la poème pour les filles d'océan, hein. C'est que sur la mer. Le père n'y est pas le père, c'est que la mer. Hein. Alors, il y a des goélands, il y a des poissons, il y a des poissons volants, il y a des belles femmes. Et je vais vous parler de l'île de Comino, qui est une des trois îles de Malte. Donc, il y a Malte, la plus grande. Il y a Gozo, la moyenne, et il y a Comino, la plus petite. À Comino, il n'y a pas de voiture, déjà. Il y a un hôtel où nous étions avec ma femme, et puis quelques pêcheurs. Mais le pire, c'est que les dimanches, il y avait des bateaux, un peu comme l'Exodus, qui arrivaient avec des Maltais pour passer le dimanche sur la plage là-bas. Et le dimanche, eh ben, on était obligé de rester à l'hôtel parce qu'il y avait une piscine. On ne pouvait pas aller au bord de mer, il y avait trop de gens qui ne payaient pas, qui payaient pas l'hôtel. Hein. Et ils étaient interdits de piscine. C'était normal. Bon, attendez, nous on payait, nous on y était pendant un mois, hein. Un mois complet. Hein. Parce qu'à l'époque, on pouvait se permettre d'aller un mois à l'hôtel, avec payer l'hôtel et puis la bouffe et tout. Hein. C'était pas un problème. D'ailleurs, c'était... Oh oui, ça remonte à loin. 1975, par là, 71, 75, vous voyez. Alors, Île de Comino. Et par contre, ça a été écrit en 2003. Ça a été écrit à Périgueux. Je revois ce corps au petit matin, après une nuit chahutée entre de vagues désirs d'amant, ou lui offrir ma vie. La baie de Comino sera de nouveau complice de nuits sauvages où l'amour prenait seulement la fuite après des matins chargés de câlins. Bon, je ne cache pas que c'était avec ma femme, bon, hein, ce n'était pas avec une amante. Hein. Je n'emmenais jamais ma maîtresse en vacances avec ma femme. Hein. Parce que, bon, je pense que là, il se serait tiré le chignon, là. Hein. D'abord, je n'ai jamais eu de maîtresse. J'ai eu que des maîtres. Ah non, si, j'ai eu une maîtresse, oui. Oui, et pour nous punir, elle nous mettait sous son bureau, nous, à l'école, ouais. Oh, je sais plus, j'étais en CE1 ou un truc comme ça, j'en sais rien. Je sais plus quel âge j'avais. Alors, ces jolis seins observaient le temps que je mettais pour lui refaire les gestes du lendemain. Du lent, comme la lenteur, demain. Demain, de mes mains, hein, vous avez compris, bon. Pas que je vous fasse un dessin quand même, non. Et on est à la radio, on n'est pas à la télé, là, hein, bon. Hein. Et alors, mes mains choisiront de se poser là où elle sera avec ce léger frôlement de mes lèvres sur son corps. La mer restera près de nous pendant notre séjour afin de mieux nous entourer de sa curiosité. Chaque remous sera pour nous, même ceux qui aborderont le creux de ses reins quand le moment sera de nouveau revenu. Au loin, Gozo tentait de nous attirer une seconde fois, sans résultat puisque nous y avions déjà fait l'amour, au cœur de Victoria à l'ombre d'une cathédrale. Bon, c'était pas trop sympa, ça, pour les curés. Hein. D'autant plus qu'on les a pas invités. Hein. Alors, Marshall Forn faisait rentrer ses bateaux de complaisance entre deux marais équinoxes qui s'étaient laissés aller le long du port en le remplissant d'algues et de galets. Alors, on avait été aussi à Gozo avant d'aller à Comino. Hein. À Marshall Forn, qui est un port de pêche, c'est superbe. Et en effet, il y avait les marais équinoxes. Et d'un coup, il y avait des vagues qui montaient plus haut que des maisons de deux étages. Et ils ramenaient des fois des galets sur le port, sur le quai, quoi. Hein. Tellement c'était relativement fort comme... La vague qui nous submergea prit le temps de nous unir une dernière fois, juste avant de reprendre le Tripoli, Malte, Orly. Parce que ça, c'était la... Pour y aller, voilà, c'était... On passait par Tripoli, de Malte, Tripoli et Orly, voilà. Hein. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est un souvenir inoubliable. Hein. Ça fait partie des 50 ans que ma femme m'a offert comme cadeau merveilleux. Bon. C'est pour ça que ça valait quand même le coup de vous le dire. Comme ça, vous savez qui je suis. Hein. Et si vous ne le savez pas, venez me voir, je vous le dirai. Hein. Alors je vais vous le dire, mon deuxième prénom, c'est Jules. Ouais. Pour celles qui aiment bien les Jules, vous voyez, hein, par exemple. Hein. Jules, vous vous rendez compte comme c'est beau comme prénom. Jules. Ah. Mais il y en a eu des Jules dans la vie, hein. Et bon, je n'étais pas tout sympa, parce que Jules César, c'était un envahisseur. Hein. Il a fait beaucoup de conneries, hein, Jules César, quand même. Hein. Bon. Il y a mon père qui s'appelait Jules aussi. Jules Mélier. Et lui, était bon, lui. Ah, il était bon, c'était pas César. Hein, lui. Hein. Alors, il y en a qui disent « Oh, César !» Il y en a qui disent « Oh, César hein. !» Alors, lequel des deux qui balègue le mieux? Bon, alors, ben, je crois que c'est fini. Ouais. Oh ben dis donc, t'aurais pu me prévenir quand même. Là, on a fait du rab. Oh oui. Bon allez, je vous laisse. À bientôt.